France Culture.
Les midis de culture. Marie Laborie.
Mon invité est souvent présenté comme le sauveur d'une certaine littérature. Il faut dire que quand il arrive en 79 avec son roman Le Méridien de Greenwich, c'est dans un paysage littéraire complètement transformé par le nouveau roman et son rejet du romanesque traditionnel. Mais Jean Echenoz, lui, raconte. Relecture de Robinson, polar, aventure, il y va gaiement et n'a cessé depuis avec son ton inimitable. Prix Médicis avec Cherokee, son deuxième roman. Il remporte le Goncourt en 99 avec Je m'en vais et rencontre définitivement son public, comme on dit. Bristol, qui paraît en ce mois de janvier son 19e roman, Jean Echenoz, est donc mon invité dans les Midis de Culture. Bonjour Jean Echenoz.
Bonjour.
Et bienvenue dans les Midis de Culture. Robert Bristol, Marjorie Desmarais, Nadia Sinclair, Jackie Pasternak, voilà les noms de quelques personnages que l'on rencontre dans votre roman. Est-ce que vous attachez vraiment une attention particulière aux noms et aux prénoms ?
Oh oui, parce que il me semble que le nom fait partie presque de la description physique d'un personnage. Mais ça a l'air d'être souvent des noms bizarres, mais j'en invente pratiquement aucun. C'est des noms que je trouve sur les boîtes aux lettres, ou dans des annuaires, ou dans des génériques de films aussi.
Ah ça. Oui?
Oui, je lis beaucoup les génériques de films.
Pour récupérer des noms, c'est pas mal.
Oui,
ça.
Oui, on sait jamais.
Vous imaginez les gens, du coup, derrière les noms que vous voyez? Un physique apparaît en voyant le
oui,
nom?
Oui, déjà le nom, c'est comme une espèce de silhouette, et puis on peut ensuite le préciser un peu plus dans ce qu'il va faire, dans ses propos, mais le nom c'est comme comme un marqueur quoi.
Mmh, c'est tout à fait vrai, on peut être assez déstabilisé parce que quand on lit votre roman, vos personnages ont des noms qui ont parfois l'air d'être sortis d'une autre époque, alors que ça se situe aujourd'hui, par exemple l'acteur très beau qui s'appelle Jackie.
Oui. Il y a des, en tout cas, les prénoms sont souvent datés. Mais ça, c'est, de toute façon, c'est indiqué dans le roman que le personnage principal, comme on dit, se prénomme Robert et ça situe un peu son âge. Enfin,
oui.
Il n'est plus un jeune homme.
Quoi. Son état d'esprit aussi, quelque part.
Et peut-être son état d'esprit.
Et alors, pourquoi Bristol ?
Bristol, ça c'est un nom qui s'est imposé tout de suite. Et puis ce que j'aimais bien, c'est que il y avait une espèce de polysémie. C'est à la fois un port en Angleterre, c'est à la fois un objet, un carton, quoi.
Mm-hmm.
Et oui, un carton d'invitation. Ça c'était pas mal pour un.
Pareil, un peu daté aussi le Bristol finalement.
Pardon.
C'est aussi un petit peu daté le Bristol.
Oui, ça peut dater. Oui, mais je sais pas pourquoi c'est un nom qui sonnait bien, quoi. Voilà.
Ouais. Alors ce Robert Bristol, c'est à lui que tout arrive, ou presque, pas tout à fait, mais quand même. Il est cinéaste, c'est un cinéaste un petit peu sur le retour, qui va tourner un film en Afrique avec tous les clichés qu'on peut imaginer. Et puis le fiasco commercial qui va s'en suivre. Est-ce que vous avez justement une image rétinienne, enfin vraiment claire de ce Bristol-là ?
Lui, je le laisse. Je sais pas. Je le vois volontairement un petit peu flou, un peu en noir et blanc. Alors que d'autres sont plus colorés. Mais je sais pas. Lui, je le vois un peu comme un acteur anonyme. Et c'est pour ça que je l'ai pratiquement jamais décrit dans le roman. Alors que pour les autres, il y a des traits que je préfère indiquer pour que ça dépasse le stade de la silhouette, pour que ce soit vraiment des images presque cinématographiques, puisqu'il est question pas mal de cinéma dans ce livre.
Alors on va continuer bien sûr à discuter ensemble, Jean Echenoz. J'aimerais d'abord qu'on écoute un petit peu la musique de ce livre avec une lecture, et c'est Oriane Delacroix.
Assise en face de Bristol qui annote ses fiches, Céleste sourit dans le vague, jambes croisées sur son fauteuil, relaxe et balançant, tenue par les cheveux, la poupée qui tient le rôle du nourrisson. « Dans 20 minutes, c'est bon », vient de prévenir Barabino. Mais c'est alors qu'un phénomène se produit. Avant de décrire ce phénomène, précisons que jusqu'ici, Robert Bristol a eu très peu d'échanges avec Céleste Open. Malgré la relative inexpérience de la jeune femme, qui aurait pu faire craindre des maladresses de débutante, il n'a eu à la reprendre en quoi que ce soit. Certes, elle n'a jamais l'air de s'intéresser vraiment à son personnage, mais elle l'incarne correctement, comme il était écrit, jouant plutôt juste, en prenant même, parfois, des initiatives qui tombent bien. On ne sait donc parler qu'au minimum. Céleste ne commande pas plus son rôle qu'elle ne demande d'indication de jeu. Bristol ne se risque pas à critiquer une actrice imposée sous le diktat de Marjorie Desmarais. Voici, cependant, ce qui arrive. Bristol lève les yeux de ses fiches pour les porter distraitement sur Céleste, et ils se regardent alors. Cela ne s'était jamais produit, du moins jamais de cette façon, car ce regard se prolonge. Un échange muet, associant la distance à la proximité, la confiance à la suspicion, le hasard à la nécessité, l'inquiétude à la certitude, et quelques autres oxymores du même tabac. Tout cela le temps d'un regard, qui ne doit pas excéder 6 secondes, mais qui semble durer 1000 fois plus. L'éternité, ou quelque chose dans ce genre. Dans les romans comme dans les films, ce qu'on appelle un coup de foudre est toujours difficile à représenter. Un professionnel saurait très bien le faire, mais quand on n'est qu'un amateur, l'entreprise est décourageante. Et donc le mieux, dans ce cas, aurait peut-être été de ne rien décrire du tout. Mais bon, nous aurons essayé.
Merci Ariane Delacroix pour cette lecture. C'est donc la scène du coup de foudre, comme on l'a décrit. Jean Echenoz, qui est celui qui dit « Mais bon, nous aurons essayé » à la fin de ce paragraphe.
C'est moi, mais en même temps, c'est le narrateur, donc moi et un personnage plus évanescent. Mais c'était ce que j'aime bien faire et ce que j'ai bien aimé faire dans ce livre, c'est que même s'il tourne beaucoup autour du cinéma, ça parle aussi du roman en train de se faire. Mm-hmm. Donc là, il y a cette espèce de commentaire, du coup de foudre, qui est un peu une suite de contradictions. Et puis le commentaire de ce commentaire, qui est bon, c'est pas sûr qu'on y soit arrivé, mais on a tenté le coup. Et ce que j'aimais bien, c'est que donc le roman se déroule, soit un roman, mais que à certains moments, il parle du roman lui-même.
Mmh. Et pourquoi vous aimiez bien cette idée-là ? Qu'est-ce que vous allez chercher de ce côté-là ?
Parce que j'aime bien la distance, et puis en vérité, parce que c'est pratiquement maladif, quoi. Je ne peux pas faire autrement que raconter une histoire sans mettre une. Je ne peux pas coller vraiment à la réalité. Ça me gênerait, puis ça. Ça serait trop adhésif, quoi.
C'est de l'ordre, oui, d'une forme de pudeur, d'élégance. Quand je vous entends, j'ai l'impression qu'il y a presque un dégoût dans l'idée de coller, justement, d'être plus.
Ah, c'est pas du tout un dégoût. Depuis, en tant que lecteur, moi, j'aime beaucoup les romans qui collent précisément au récit. Mais je sais pas, c'est une espèce de réflexe qui fait que de temps en temps, j'ai besoin de prendre une espèce de distance. Elle y est un peu toujours dans la narration, mais quelquefois, c'est faire un petit recul, comme un recul caméra, mais même un recul qui irait en deçà de la caméra, où on verrait carrément la caméra et tout le reste, quoi.
De vous montrer les choses en train de se faire.
Les choses en train de se faire, oui. Je trouve que c'est pas vraiment prendre à témoin un lecteur, d'ailleurs on sait jamais qui c'est le lecteur. Le premier lecteur, c'est moi, quoi. Mais c'est pas tellement le prendre à témoin, c'est indiquer aussi ce qui peut se passer dans le travail du roman.
Mm-hmm. Donc vous mettez le lecteur à vos côtés quelque part.
Je disais le contraire à l'instant, mais oui, je peux le prendre à témoin.
Oui, c'est ça. En tout cas, sur la table de travail, il est pas loin, quoi.
Oui. Ben, c'est moi aussi, parce que je suis en train d'écrire une histoire et en même temps je me vois en train de l'écrire, etc., etc. C'est une espèce de mise en abîme, si vous voulez.
La notion de plaisir du lecteur ou de la lectrice, c'est important pour vous ?
En vérité, le premier lecteur, encore une fois, c'est moi-même, et il faut pour que le texte, la phrase, le paragraphe reste, que j'ai le sentiment, moi, d'y avoir trouvé un plaisir aussi de lecteur, pas seulement d'auteur.
Mais est-ce qu'on arrive à lire un texte quand on est en train de l'écrire ? Est-ce que c'est pas une fois qu'il est fini, quelque part, qu'on peut avoir cette distance en tant qu'auteur ?
Il y a aussi beaucoup de choses inconscientes dont on ne se rend compte qu'après. Oui, ouais. Il y a des. Je me souviens que pour une série de 3 livres que j'avais fait, c'était des espèces de vies imaginaires. Je crois que je me suis rendu compte un an après.
Avec Ravel, que, oui, voilà, Zatopek, avec Ravel, voilà. Tesla.
Et je me suis rendu compte longtemps après qu'au fond, j'avais fait que raconter l'histoire de grandeur et décadence. Ouais. Du moment de la gloire au moment de la chute. Ouais. Mais, et ça, dans le mouvement de l'écriture, et pourtant ça a duré 3 livres, quoi. Je l'avais pas à l'esprit. Je me suis... Bon, donc c'était une, cette espèce de mouvement inconscient qu'il fallait que je raconte une chute chaque fois.
On a parlé de... D'ailleurs, le roman commence par une chute, hein, celui-ci.
Et le roman commence par une chute. Et déjà, le roman précédent commence aussi par une chute.
C'était vrai.
Il va falloir que je m'arrête.
Les chutes, oui, c'est important, là. Faire attention. On a parlé de plaisir de lecture. Est-ce qu'il y a un plaisir d'écriture? Est-ce que cette étape-là, de l'écriture pure et dure, parce que je sais, on va en reparler, que vous travaillez beaucoup sur la documentation, mais une fois que vous vous mettez à votre table, ça sort d'un jet, c'est difficile, c'est long. Comment ça se passe pour vous, Jean Ismond?
Ah non, ça sort pas du tout d'un jet. C'est très, très besogneux. Hein. Ouais. C'est très besogneux. C'est des essais, des erreurs, quelquefois des découragements, quelquefois, tiens, une espèce de petite épiphanie. Mais les découragements sont plus nombreux que les épiphanies. Donc, non, c'est plutôt de l'ordre de l'obstination. Je veux raconter telle histoire. Tiens, ça accroche, ça résiste. Bon, alors quand ça résiste, ou bien on s'obstine, ou bien on fait un peu la gueule et on passe à un autre passage qui semble plus accueillant. Non, ce n'est pas une entreprise qui coule de source, disons. Mmh.
Alors, on l'a dit, l'action de ce roman se déroule dans le milieu du cinéma. Il est bien sûr question de tournage, de scénario, d'actrice aussi. On va écouter un cinéaste qui, lui aussi, pratiquait une certaine forme de distance, avec une sorte d'œil rieur, on va dire. C'est Claude Chabrol.
On a parfaitement le droit de raconter un mensonge, à condition que les personnes à qui on le raconte savent que c'est un mensonge, que c'est une grosse couillonnade, à condition qu'on ne fasse pas croire que c'est la princesse de Clèves ou Bérénice. Hein. Alors, je crois que la première honnêteté, alors cela c'est de la morale pure, c'est d'être honnête envers le spectateur vis-à-vis du matériau que l'on utilise. Mais par contre, c'est vrai qu'une certaine amoralité me paraît indispensable pour briser vis-à-vis du spectateur des carcans qui l'empêchent de voir les choses librement. La non-utilisation d'une notion de morale, mais qui ne pourrait être qu'une morale de société, me paraît la meilleure façon de faire une œuvre morale, celle-là, à condition qu'on décrive exactement le matériau que l'on utilise.
Voilà, Claude Chabrol, il était interviewé dans À Voix Nue sur France Culture, c'était en 1998. Il parle en fait d'un contrat qui passe avec le spectateur, tout simplement. Vous passez un contrat, Jean Echenoz, vous aussi, avec votre lecteur?
Il y a forcément un contrat de lecture, et puis il faut, même si, encore une fois, je ne pense pas forcément à un lecteur hypothétique, mais à moi-même comme lecteur, oui, il y a un contrat de cohérence, d'articulation, d'équilibre, même si on rompt ces équilibres et si on essaie justement, oui, de faire bouger un peu tout ça.
Et vous jouez aussi avec le spectateur. Décidément, je vais dire spectateur à chaque fois puisqu'on parle de cinéma. Vous jouez aussi beaucoup avec le lecteur, par exemple. Il y a cette fin de chapitre et vous expliquez qu'un intrus arrive. Suspense, au chapitre suivant, cet intrus, c'est une mouche, et une mouche qui, finalement, ne va pas servir à grand-chose plus tard. Vous jouez avec nous beaucoup.
Oui, enfin, elle sert quand même à décrire le bureau.
Elle sert à décrire le bureau, c'est vrai.
Mais au lieu de décrire moi-même, si je puis dire, je trouvais que c'était pas mal que ça passe par le regard caméra d'une mouche, quoi, qui va se poser sur les endroits qui l'intéressent. Elle se pose devant la monographie de Kurt Neumann, qui était l'auteur de La Mouche, etc. Oui. Donc on peut jouer avec ça. Mais c'est une façon toujours pareil, hein, de varier les c'est comme filmer une scène en utilisant plusieurs caméras, quoi. Uh-huh. Ça peut être un jeu avec les pronoms personnels, avec les reculs, enfin avec tous les ustensiles techniques, la rhétorique, disons, du cinéma.
Vous avez dit le mot jeu. Moi, vous jouez. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une notion d'amusement quand même, avec tout ce qui est à votre disposition d'auteur, évidemment.
Il faut que ça bouge, ouais. Il faut que ça bouge, et que quelquefois il y ait une distance qui produise des effets de drôlerie, oui, parce que ça fait partie de. Mais le rire, c'est quelque chose de sérieux en même temps. Hein. C'est aussi quand même une façon de s'en sortir par rapport à la mélancolie du monde.
Ouais. Est-ce que beaucoup de critiques, de journaux parlent de vous en parlant d'ironie? Est-ce que c'est un mot qui vous convient?
J'aime pas tellement l'idée d'ironie. J'aime pas du tout l'idée de parodie. Non, parce que dans l'ironie comme dans la parodie, il y a quelque chose de surplombant, d'un peu méprisant. Et moi, non, je joue pas tellement. Peut-être que ça peut être l'ironie par rapport à ce que je fais. Et j'espère que ça peut se voir à certains moments. Mais non, j'ai plutôt par rapport aux personnages que je peux inventer, j'ai plutôt de l'affection et ce qui peut passer pour des travers, ça fait partie de cette affection. J'aime pas me moquer des personnages, j'aime pas me moquer de mon histoire. Je veux dire de l'histoire que je raconte, et j'aime pas me moquer d'un lecteur éventuel.
Mmh. Par contre, vous dites pouvoir avoir de l'ironie par rapport à ce que vous faites.
Ben oui, parce que c'est aussi pour ça que ce roman, il est. Bon, c'est une histoire, mais c'est aussi l'histoire du roman en train de se faire. Et bien sûr, il faut toujours prendre un peu de distance par rapport à ce qu'on fait, sinon on s'aveugle, on risque d'être aveuglé.
Ouais, on y revient toujours à ça, la distance.
Mais c'est une maladie, hein. Je ne peux pas faire autrement.
Alors il faut le dire quand même, parce qu'on n'a pas encore parlé de ça, on a évoqué très rapidement que Bristol commence par une mort violente, hein, donc avec cet homme qui chute d'un étage élevé dans un quartier de Paris, le 16e, juste à côté de la maison de la radio, la rue des Eaux, devant laquelle on passe souvent. C'est donc... On peut avoir l'impression que c'est un polar qui va démarrer, sauf que pas tout à fait, un peu mais pas tout à fait. Donc voilà, on est toujours un petit peu sur des choses un peu mouvantes, pardon. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce jeu justement encore distancié justement avec le genre? Là, en l'occurrence, c'est le genre du roman noir.
Oui, mais ça c'était surtout pour les premiers livres que j'ai fait, c'était il y a déjà pas mal de temps, les trois ou quatre premiers, c'était un peu des hommages à des genres, que ce soit le roman noir, le roman d'aventure, le roman d'espionnage, etc. Je me suis un peu libéré de ce système de révérence, au fond, par rapport à des genres nobles qui ne sont pas des genres mineurs. Mais je sais que d'une certaine manière, je viens de là aussi, quoi, bon, et que j'ai toujours besoin d'une espèce de noyau qui est un noyau noir. Même si on peut le relativiser, le tourner en dérision, mais qui est cette espèce de déclencheur, si vous voulez.
Alors, en revanche, on a entendu la Claude Chabrol, lui, il se place du côté, finalement, d'un cinéma qui serait porteur d'une morale, pas de la morale de tout le monde, pas de la morale bien-pensante, mais quand même d'une forme de morale. Jean Echenoz, j'ai pas du tout l'impression que vous soyez sur cet angle-là.
Ah, Dieu sait si j'aime Claude Chabrol, ouais. que je tiens avec Jacques Rosier pour les deux cinéastes les plus importants de ce qu'était la nouvelle vague. Non, je suis pas tellement. C'est pas une question que je me pose. Dans le thème, dans la construction, dans l'histoire que je raconte, qui est une morale de l'auteur, j'aurais du mal à la définir, et puis je suis pas sûr d'en avoir les moyens, mais qui est une morale de l'auteur par rapport à ce qu'il fabrique, à ce qu'il produit, oui, je crois qu'elle existe. Je pourrais pas la définir encore une fois, mais je crois que, oui, il y a une morale, une tenue,
une conscience de ce qu'on fait.
Oui, une conscience de ce qu'on fait, compte tenu de toute la dimension inconsciente aussi qui est présente dans la dans la fabrication d'une histoire, d'un livre, et puis d'une manière, quoi. Mmh.
On a parlé de cinéma, je sais que ça, c'est un art qui vous touche, et ça se sent dans votre façon de décrire les scènes, de les installer. On est dans un, là, dans, d'autant plus dans ce livre, dans un processus presque cinématographique.
Oui. Ben oui, parce que j'ai tellement eu l'impression, enfin, j'ai tellement joué avec, les effets de montage, de, je sais pas, de différents plans,
de focales,
champ contre champ, etc. Dans les livres précédents, je m'en suis tellement servi, mais de façon instinctive, hein, c'est parce que j'ai l'impression que d'avoir beaucoup appris au cinéma sur ce qu'on peut faire en littérature, ben, je m'en suis tellement servi que je me suis dit, au fond, maintenant, allons-y, et que l'action elle-même soit autour d'un film idiot, d'ailleurs, je crois, et d'un réalisateur pas forcément très
futé non plus.
Pas très glorieux.
Mais on y sent effectivement un hommage à ce cinéma aussi des années 70-80, qui était assez populaire. On en rit un peu, mais on sent que vous aimez aussi cette période-là.
Oui. De toute façon, tout ce qui est, tous les genres cinématographiques m'ont touché, intéressé. Mais là, il s'agit en effet de l'adaptation d'un roman populaire, et pour donner un film idéalement populaire, et qui se résoudra plutôt pas très bien.
Par un échec total. Là où vous pratiquez l'art de l'image, Jean Echenoz, c'est aussi dans les lieux que traversent vos romans, ce roman aussi en particulier, puis vice-versa, j'ai envie de dire. Alors, il n'y a pas de très longue description, parce que ce serait absolument étonnant chez vous, mais vous êtes précis sur les adresses, sur les immeubles, sur un paysage qu'on traverse, en quelques mots. Il est extrêmement bien posé. On va écouter, si vous le voulez bien, l'écrivain Michel Tournier. C'est en mai 2000, au micro de France Culture, où il oppose, vous allez voir de façon assez radicale, le roman historique et le roman géographique.
J'aime assez opposer les choses deux à deux, et si vous voulez, on peut opposer l'inspiration historique du roman, le roman d'histoire, type Alexandre Dumas, et le roman géographique, le roman de voyage, type Jules Verne.
Oui.
Et alors, la première chose qui saute aux yeux, vous savez, j'ai relu récemment Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. J'ai trouvé ça d'une noirceur, atroce.
Ouais.
Même le personnage d'Athos, que je croyais sympathique, en fait c'est un ivrogne qui a assassiné sa femme. C'est d'une noirceur d'encre. Et je crois que c'est le fait de l'histoire. L'histoire est mauvaise. Alors que la géographie, Jules Verne, c'est un enthousiasme juvénile pour découvrir des pays magnifiques. C'est l'admiration qui fait le voyageur. Alors que l'historien, c'est l'horreur. Si vous voulez, on peut dire que l'histoire est écrite par le diable et que la géographie est dessinée par Dieu.
Michel Tournier, l'histoire est écrite par le diable, la géographie par Dieu, ça vous paraît intéressant comme définition?
Je ne sais pas si c'est écrit par Dieu, mais je sais que...
Dessiné par Dieu, dit-il d'ailleurs.
Oui. Mais je sais que... Très souvent, à l'origine d'un roman, ce sont des lieux qui sont comme des espèces de démarreurs. Mmh. Et là, pour ce livre-là, pour Bristol, c'était deux lieux. Un que je connais pas mal, que j'ai d'ailleurs découvert en sortant de la maison de la radio il y a quelques années, qui est la rue des Eaux, juste à côté. Et puis, comme j'avais beaucoup utilisé dans des romans précédents, plutôt des pays asiatiques, je me suis dit, je pourrais m'occuper de l'Afrique. Mais c'est une Afrique, là, j'ai pas du tout fait de repérage. J'ai fait des recherches, j'ai regardé des cartes. Mais ça, c'est une Afrique reconstruite un peu en carton-pâte, d'une certaine manière, comme j'avais fait avec la Malaisie il y a très longtemps. Et en même temps, avec un souci de réalisme, un souci de... Je veux dire, j'ai bien étudié la morphologie du paysage. Et puis ça venait aussi d'une lecture d'enfance qui était les histoires comme ça, de Rudyard Kipling, où il y a une des histoires qui s'appelle, je crois, L'enfant d'éléphant, qui commence sur le fleuve Limpopo. Et je me suis dit, tiens, le fleuve Limpopo, ça m'a l'air d'un point de départ pas mal.
Et ces lieux géographiques auxquels vous vous attachez, ça vous permet de passer comme ça, en une phrase, peut-être quelques-unes de plus, d'un lieu à un autre. Mais alors voilà, on peut aller très 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 loin comme ça dans votre écriture. Hein. Vous faites un montage sur une même phrase de lieux complètement divers.
Oui, et puis les lieux sont producteurs de fiction. J'avais fait un roman il y a 4 ans sur une rue du 16e arrondissement aussi, qui est la rue Erlanger, qui n'a franchement aucun intérêt. Et c'est ce manque, cette absence d'intérêt qui la rendait pas mal en même temps. Alors que la rue des Eaux, qui est aussi donc juste à côté, c'est un véritable décor de théâtre. Enfin, il y a elle part de bord de Seine, elle finit, on ne sait pas trop comment, un square, un escalier, une rue qui, l'architecture est plutôt intéressante. Enfin, c'est un peu une matrice, quoi, c'est des lieux comme ça, parce que. Oui, c'est déjà un décor de théâtre.
Vous expliquez que vous documentez beaucoup ce que vous avez fait là aussi pour ce roman. De quel côté vous êtes allé voir là pour Bristol ?
Et pour Bristol, donc, je suis retourné souvent rue des Eaux.
Ouais.
Et l'Afrique, non, ça c'était des choses, des lectures, des images, etc. Là, il n'y avait pas beaucoup de. Vous voulez dire
de recherche, de ce que vous disiez, que vous faites souvent, c'est ce que vous racontiez.
De toute façon, si je fais intervenir une mouche, par exemple.
Voilà, vous connaissez tout si sur la drosophile.
Il faut que je me renseigne très, très sérieusement, que je cherche l'animal qui convient le mieux, jusqu'à sa description physique.
Hein, ouais,
donc, et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le travail romanesque, c'est le moment où, au fond, on ne travaille pas, c'est-à-dire on cherche, on a sa conscience pour soi, on agit pour le roman, mais on n'est pas obligé de s'y mettre et on fait des recherches, on lit, on trouve des images, des textes, des choses. Et aussi, je trouve que, toujours avec cette histoire de mouche, c'est que le vocabulaire scientifique a une espèce de force poétique. Et c'est une des façons de convoquer un peu la poésie dans le roman, ce à quoi je suis plutôt attentif. Et enfin, ça m'importe.
Merci beaucoup, Jean Echenoz, d'être venu dans les Midi de Culture. C'est déjà fini.
Merci.
Je rappelle donc que votre roman Bristol a paru aux éditions de Minuit, comme toujours. Et nous, ça nous a donné envie d'écouter un morceau que vous aimez, je pense, The Man I Love de Gershwin, chanté ici par Billie Holiday.
Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love, and when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand. Then in a little while he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I shall meet him someday. Maybe Monday, maybe not. Still I'm sure to meet him one day. Maybe Tuesday will be my good news day.
Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Oriane Delacroix, Boris Pinot, Marceau Vassy, Zora Vigne, Lise Ripoche et Louis Cosnard. Elle est réalisée par Laurence Malonda avec à la technique Anthony Thomasson.